On va reprendre. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur comment distribuer une application Python. Enfin, une des manières que vous pouvez utiliser pour distribuer une application Python. Et l'objectif, c'est d'avoir des outils pour les développeurs paresseux, pour les gens qui n'ont pas trop envie de passer du temps à distribuer leur application. Donc, qui suis-je? Mon rôle, je travaille à un génie web et mon rôle sur l'aspect empaquetage et distribution, c'est de formaliser la structure des applications que les développeurs créent et d'essayer d'industrialiser la mise en production qu'ils font de leurs applications Python. Pour ça, on a dû mettre en place un processus de packaging et s'assurer que ce processus pouvait être utilisé de la même manière, quelle que soit l'application et quels que soient les projets et quels que soient les systèmes cibles en fait. Et enfin, de fournir aux développeurs un lot d'outils qui leur permettent de bosser avec leur application et de la pousser et de la fournir aux clients, en fait. Alors, le plan, ce n'est pas un tutoriel, c'est une présentation. J'espère que certaines parties seront bien comprises sans toute une armada d'exemples qu'on aurait pu avoir dans un tutoriel. Et si vous avez des questions supplémentaires sur certains points techniques, n'hésitez pas à venir me voir après la présentation. Alors le plan, c'est d'abord expliquer comment on peut empaqueter une application dans Python. Ensuite, j'expliquerai comment on peut fournir une application au client. Après, je présenterai les eggs, donc, et en quoi ça peut servir pour cet aspect-là. Comment distribuer une omelette, donc plusieurs eggs. Comment faire un déploiement décentralisé. Et enfin, je présenterai un logiciel qui s'appelle Plone Software Center. Alors, pour impacter une application, j'ai trouvé trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode RASH. La deuxième, c'est la méthode de distribution par source. Et la troisième, c'est la distribution binaire. Alors, la méthode RASH. Vous créez un module, vous avez une application Python, donc un dossier avec un paquet avec plein de scripts Python, et vous en avez un qui est dédié au lancement de l'application. En gros, dans ce script-là, j'importe ce qu'il faut, et dans la section main, eh ben, je lance l'application en prenant les arguments passés, quoi. C'est un exemple. Si c'est une application console, ce sera un petit peu différent. Alors, les avantages de la méthode RASH. C'est portable, c'est sûr de fonctionner. Il n'y a aucun problème de désinstallation, c'est-à-dire que si l'application ne me prend pas, je prends le dossier et je le supprime. Les inconvénients, c'est que ça nécessite une installation manuelle, c'est-à-dire qu'on va dire au développeur, au client, bah, vous prenez ce dossier-là, vous le mettez où vous voulez dans votre machine et vous double-cliquez sur tel fichier pour lancer votre application. Et donc, c'est un démarrage manuel et spécifique. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'intégration au système hôte. Et quand vous avez affaire à des entreprises qui ont certains standards de déploiement, vous ne pouvez pas vous pointer avec votre application Python et lui dire, bon, bah, tiens, c'est le dossier, tu n'as qu'à le lancer, tu cliques sur ce fichier-là. Il faut une certaine standardification de standardisation de tout, quoi. Voilà. Et il y a aussi le problème que si votre application a des modules C à compiler, c'est une étape qui n'est pas forcément prise en compte. Et à terme, le problème de la méthode RASH, voilà, qui est présenté en fait sur un site de méthodologie, voilà, c'est qu'on risque de partir vers l'abandon du projet parce qu'en fait, voilà, ça c'est le schéma un peu conceptuel. Enfin, il peut vraiment y avoir des petits problèmes, quoi. Donc, je vous déconseille la méthode RASH. Distribution par source, c'est la deuxième méthode. Alors, c'est une méthode RASH améliorée en fait. On va faire la même chose, on va donner au client un dossier avec des scripts Python, sauf qu'on va l'améliorer un petit peu. Ça veut dire que le source, on va être en mesure de le déployer dans Python, dans le dossier Site Package. C'est ce qui se passe quand vous récupérez des extensions Python. C'est-à-dire, il installe ces modules-là dans Python et après, il le rend accessible dans le pass. Et c'est ça qui permet que l'import votre module marche. Et on va rajouter aussi quelques scripts de démarrage pour que depuis le système, on soit en mesure d'appeler ces scripts Python. En gros, sous Linux, il va déployer un script de démarrage dans le chemin bin, et comme ça, je pourrais le lancer. Sous Windows, il va faire la même chose et il y aura un petit texte explicatif. Voilà. Et ça, c'est basé sur distutils, en fait, qui est un module de la bibliothèque standard. Alors, les avantages, c'est la préparation automatique, c'est-à-dire que distutils fournit des API qui vont vous permettre de mettre ça en place sans avoir à faire de code ou quoi que ce soit. C'est une installation standardisée, c'est-à-dire que tous vos modules, vos applications vont être installés dans le site package de Python. Et c'est une installation universelle, ça marche sur Mac, sur Linux et Windows. Ouais. Les inconvénients, la désinstallation est manuelle, donc toujours le même problème. Et l'avantage de l'installation universelle peut devenir un inconvénient parce que on n'est pas sûr des paquets qui s'installent, comme par exemple dans Debian, vous avez des points deb. Et donc, quand vous voulez mettre à jour votre système, c'est super simple. Il suffit de faire un apt-get update et le système se met à jour. Et en utilisant cette méthodologie-là, ben, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Donc, ça peut poser des problèmes pour certains déploiements. Et l'autre truc, c'est que les modules C, il y a toujours des modules C à compiler, quoi. On verra après qu'on pourra les pré-compiler. La dernière méthode, c'est distribution binaire, c'est basé sur une distribution par source, mais en plus, on fait une précompilation des extensions C. Je dis C, mais ça peut être C++ ou je sais pas Pyrex, des trucs comme ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de compilateur sur la machine hôte, en fait, la machine cible. Ça veut dire que vous pouvez déployer votre truc et ça va marcher. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir compiler pour toutes les plateformes cible le paquet en question et pour tous les CPU, quoi. Donc ça pose des problèmes dans certains cas, par exemple pour être sûr qu'on va compiler statiquement et indépendamment des chemins et des bibliothèques du système le paquet. Et des fois c'est super délicat. Voilà. Alors on va se faire une petite démo rapide. On va créer un paquet distutils, on va créer une distribution avec et on va écouter de la musique parce que je travaille toujours en musique quand je code. On va écouter The Far Side. Alors, je vais créer une application assez complexe. En fait, je l'ai déjà créée. Ça, c'est mon application. Et pour la déployer avec Distutils, en fait, je vais rajouter un setup.py avec. Voilà. Ne faites pas attention à ce qu'il y a en bleu. Et en gros, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que mon paquet s'appelle picon-fr-demo. J'ai plusieurs métadonnées qui permettent de décrire à quoi sert le paquet, quel est l'auteur, l'email de l'auteur, etc., etc. Et ce paquet-là va me permettre maintenant de déployer mon application. La méthode 2 en source. Donc pour faire ça, j'ai fait Python setup sdist. Il m'a créé un répertoire dist dans lequel je vais retrouver un tarball. Dans lequel je trouve un seul fichier, donc un tarball. Et dans ce tarball-là, j'ai mon source et je vais pouvoir le distribuer comme ça. Voilà, donc là, grâce à Distutils, j'ai un outil pour empaqueter et distribuer automatiquement mes applications, mes paquets Python. C'était mieux avec, hein. Ensuite, une fois que j'ai empaqueté mon application Python, je vais vouloir la fournir au monde. Donc, il y a deux méthodes. Il y a la méthode 1.1, faire un site web, et la méthode 2, c'est utiliser PyPy. Alors, faire un site web, les avantages, c'est que ça devient un média central d'information sur le projet et que ça va permettre de faire une organisation sur mesure. Par exemple, si je vais sur le site de Django, j'ai une section download, une section tutoriel, etc. Et je vais pouvoir récupérer ces paquets et fournir aux utilisateurs un endroit central d'information, quoi. Les inconvénients, par contre, c'est que pour pouvoir mettre ça en place, et quand vous allez commencer à faire beaucoup, beaucoup de distribution de paquets, il faut automatiser un maximum ces étapes-là. Et il est nécessaire de créer des scripts pour pusher les distributions sur ces serveurs. Alors ça peut être super simple, ça peut être juste un accès SSH qui vous permet de le pousser, quoi. Mais à un moment donné, il y aura des problématiques de version, il y aura des problématiques d'organisation sur votre serveur qui feront que ça peut devenir un inconvénient. Et enfin, le dernier truc, c'est que vous avez besoin de faire du marketing autour de votre site web pour dire, tiens, j'ai tel paquet, il existe, venez le prendre. La méthode 2, c'est d'utiliser PyPy, donc Python Index, qui s'appelait avant le SysShop. C'est ainsi un service qui est fourni par python.org qui permet de répertorier des paquets Python. Et avec distutils, je vais pouvoir automatiquement, depuis la ligne de commande, envoyer mon paquet Python que je viens de compiler sur PyPy. Alors les avantages, c'est que c'est fait automatiquement, c'est-à-dire que j'ai une commande qui s'appelle upload et ça envoie le paquet sur PyPy. L'autre avantage, c'est qu'il y a une visibilité publique des paquets. Je vais pouvoir faire ma pub en disant, tiens, sur PyPy, si tu vas dans la section serveur web, tu vas trouver mon paquet parce qu'il est répertorié à cet endroit-là. Par contre, les inconvénients, ben, c'est aussi une partie de l'inconvénient, la visibilité, c'est que si vous avez des projets privés, vous n'avez pas forcément envie qu'ils apparaissent sur PyPy. Et la mise en ligne de doc, elle est limitée. C'est-à-dire que vous vous retrouvez forcément avec un site pour le projet et des paquets sur PyPy. Donc vous dites aux gens, vous allez sur PyPy et vous récupérez les paquets en question, etc., etc. Donc il faut maintenir deux médias. Et quand vous travaillez, vous devez travailler avec ces deux médias-là. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va modifier l'application Python que je vous ai montrée et on va la balancer sur PyPy pour voir un petit peu ce que ça fait. C'est des copies privées, à usage privé, c'est autorisé. Donc je vais modifier mon fichier de setup. J'ai modifié juste une ligne, maintenant il utilise Setup Tools, qui est une extension qui est disponible et installable et qui permet d'améliorer. Je me suis trompé. En fait, je voulais pusher sur PyPy. Pour pusher sur PyPy, il y a une commande qui s'appelle register qui me permet de m'enregistrer mon paquet sur PyPy. Après, je vais appeler la commande qui permet de créer la distribution et après, j'appelle upload. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je vais sur PyPy, on va retrouver mon paquet en fait. Il apparaît comme le dernier paquet qui a été uploadé en fait sur PyPy. Et on voit ici la description du paquet. Bon, c'est la version 0.0.0 parce que j'ai pas mis de numéro de version. Et si on clique dessus, on va voir que je suis l'auteur. Voilà. Donc ça va me permettre de déployer en une ligne de commande le paquet Python au monde. Donc voilà, on en est où? On est capable de déployer des paquets Python et on est capable aussi de les envoyer sur PyPI. Alors l'inconvénient de ce mode de fonctionnement-là, c'est que tout est inclus dans le paquet. Et quand vous avez affaire à des grosses applications, par exemple Zoop, eh ben, une application Zoop, c'est beaucoup, 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 beaucoup de code. Il y a aussi du code compilé. Et si on mettait tout dans un seul paquet, le paquet il serait vraiment énorme et difficile à maintenir. Parce qu'à chaque fois que je veux faire une modification dedans, il faudrait que je refasse une release de ce paquet complet. Donc en fait, l'idée, ce serait de pouvoir faire différemment et pour pouvoir gérer ces problèmes-là. Ensuite, il y a un problème de dépendance, c'est-à-dire que dans votre paquet, il n'y a pas de notion de dépendance à d'autres paquets. Et en général, ce que font les développeurs, c'est que dans le readme.txt, ils vont lister toutes les dépendances. Ils vont dire, bon, tu installes ça, tu installes DocUtils, tu fais ci, tu fais ça, etc., etc. Donc ça peut être relativement pénible. Et les EGS furent, ils ont inventé un nouveau concept à travers Setup Tools qui s'appelle les EGS. Voilà. Ça dure un moment, hein, je vais arrêter là. Je la remettrai au complet après si vous voulez, mais. les eggs. Ah oui, voilà. Voilà, alors les eggs, c'est quoi? C'est un paquet qui a été développé par Philippe Eby, qui travaille à. Qui a un site qui s'appelle PIC, Python Entreprise Application Toolkit, ou Kit, ouais. Et il a créé Setup Tools, qui est une extension d'Istutils. Et qui permet de corriger certains des problématiques de distutils. Et en gros, Guido Van Rossum lui a dit, bon, pour Python 2.5, eh ben, tu vas prendre distutils, tu l'enlèves et tu mets Setup Tools. Et il a envoyé un mail juste avant la sortie de Python 2.5 en disant, ouais, ce sera plutôt pour 2.6. Et on pense que ce sera pour 2.7. Donc en gros, très, très prochainement, Setup Tool sera intégré à Python. Donc ce que je vais vous présenter, c'est basé sur une librairie, sur une bibliothèque externe, mais par contre, c'est l'avenir de Python en termes de distribution. Le futur, oui. Alors Setup Tools, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de découper une application grâce à l'espace de nom. Par exemple, pour Zoop, au lieu d'avoir un gros paquet Python Zoop avec des sous-dossiers. Publisher, security, je vais avoir un seul paquet qui va s'appeler zoop.publisher, un autre paquet qui va s'appeler zoop security, et si jamais je veux faire une modification dans security, ben, je n'ai pas besoin de redéployer tout et de releaser tout, je release juste zoop.security. Donc, et du coup, ça arrange aussi la modularité dans le sens où le fait d'éclater une application en plein de petits paquets comme ça, ça facilite la tâche. Ça permet aussi de définir des dépendances. Je peux rajouter dans mon fichier setup une liste de dépendances avec des noms de paquets et automatiquement Setup Tools va aller les chercher sur PyPI et va les installer. C'est-à-dire que si mon paquet a besoin de tel ou tel truc, ça va aller le chercher. Ça permet aussi de faire une installation develop. En gros, au lieu, quand je fais mes essais et que je veux voir si mon paquet, mon application marche bien avec Python, au lieu de la déployer dans Python et après de la désinstaller manuellement, avec la commande develop, je vais pouvoir la lier au Python de manière temporaire et pouvoir faire une désinstallation. Et ça, c'est beaucoup utilisé quand vous travaillez avec les EGS. Et ça fournit une commande qui s'appelle easyinstall. Et donc, comme apt-get, je vais pouvoir faire easyinstall d'un paquet. Je vais vous faire la démo. Enfin, c'est compatible PyPy dans le sens où tout ce que je vous ai présenté, ça fonctionne aussi avec le register et l'upload. Voilà, donc découper une application en paquets, ça fait une distribution modulaire et ça maximise sa réutilisation Parce que quand je vais développer une application, je vais d'abord regarder sur PyPI s'il n'y a pas déjà des paquets qui ont été créés pour tel ou tel usage, quoi. Voilà, alors on va faire un exercice toujours sur le petit exemple. On va faire une eggification de l'exemple. On va le passer à setup tools et ajouter des dépendances. Et on va créer un egg. Voilà, donc là, au lieu d'utiliser le setup de distutils, j'utilise celui de setup tools. Et là, je vais rajouter une section install requires. Et dans les requirements, je mets docutils. Ça veut dire que mon paquet, pour fonctionner, il faut que dans le Python, il y ait docutils installé. Merci. Je teste. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, au lieu d'appeler sdist, je vais pouvoir appeler bdistEggs, qui va me fabriquer une archive qui n'est plus un tarball, mais un fichier zip, et qui va pouvoir être déployée sur PyPI. Et cette archive est spécifique à la plateforme. Donc, vous voyez ici. Enfin, elle est spécifique à la plateforme dans certains cas, mais bon, voilà. Et donc là, je me retrouve avec un fichier egg que je vais pouvoir déployer sur le sysshop. Donc là, si je fais toujours la même commande, Python setup, et je fais register sdist, parce que je veux aussi envoyer la version source, bdistegg, upload. J'appelle ça. Et maintenant, si je retourne sur PyPy, je me retrouve avec les deux versions qui sont en ligne, quoi, et les gens peuvent les récupérer. Et l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant n'importe qui peut faire easy install de mon paquet en fait. Il va taper easy install picon-fr et tirer des mots et il aura le paquet qui sera installé sur son Python. Donc ça, c'est comme ça, c'est pour ça que vous voyez dans plein de logiciels des easy install dans le guide, ils disent vous faites easy install et vous pouvez installer le paquet. Voilà. Et cette commande-là, je peux la mettre dans un alias que je vais appeler go go go. Voilà. Et maintenant, quand je vais faire Python setup py go go go, il va lancer la séquence register sdist bdistegg upload. Voilà. Alors. Une fois qu'on a fait nos paquets comme ça, il faut pouvoir distribuer en fait l'application qui est basée sur plein de petits paquets. La première méthode, c'est d'utiliser un paquet qui est le maître, et la deuxième méthode, c'est d'utiliser un environnement de configuration. Alors, le master eggs, les avantages, c'est que c'est des dépendances faciles à gérer. Dans votre setup, vous avez la liste, et puis vous mettez telle version de tel paquet, etc., etc. Ça récupère automatiquement des mises à jour, c'est-à-dire que les personnes avec Easy Install pourront faire moins tirer U, grand U pour mettre à jour et ça mettra à jour toute la collection de d'eggs. Par contre, la désinstallation est toujours manuelle, c'est-à-dire qu'il faut aller dans Python pour retirer les paquets. Et ça, c'est pas génial. Et ça peut provoquer des conflits de version de paquets dans Python. Par exemple, si vous installez une application qui veut la version 1.2 de tel paquet et une autre application qui veut une autre version, ça peut s'en mêler les pinceaux parce que ces versions-là n'auront pas forcément fait attention à avoir des scripts aux noms différents avec des versions, etc., etc. Donc ça peut être, il peut y avoir des problèmes. En l'occurrence, si vous faites du zoop, vous avez certainement déjà vécu ce problème-là, des conflits de version avec zoop.interface par exemple parce qu'il était installé pour Twisted avec telle version et que zoop en utilise un autre, quoi. Donc ça, c'était monnaie courante. Mais grâce à zcBuildout, qui est donc la méthode 2, on peut créer un environnement de configuration. Et dedans, on va décrire les dépendances, la séquence de construction de l'application. Donc en gros, on liste les ex et on dit t'installes ça, 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 ça. Et zcBuildout va travailler avec PyPy, tout charger dans le dossier, créer un environnement Python local sans faire de conflit avec le Python du système. Et on va pouvoir même rajouter des scripts de lancement. Donc, du coup, on repart sur un modèle localisé, mais on s'assure qu'il n'y a aucun conflit avec le système. C'est un peu le même principe qu'avec VirtualEnv. Donc, là, je voulais vous montrer rapidement comment je peux lancer Plone en fait avec un fichier comme ça, comment je peux installer Plone. Donc Plone, il est distribué avec un seul fichier qui s'appelle buildout.cfg, voilà, qui définit la séquence Plone, ZOB2, product distro, instance, qui définit les endroits où on va trouver les eggs, qui définit un egg Python supplémentaire. Et pour chaque section, je vais avoir une ligne recipée. En fait, c'est un petit paquet qui est en charge de gérer l'installation de la partie concernée. Donc là, plone.recipe.plone, c'est un egg qui contient du code d'installation pour Plone. Et donc, ce paquet-là, là, il y a des infos sur l'administration, le nom de user, le user admin, sur quel port ça se lance, etc. Et donc là, pour le lancer, je fais juste ça, en fait. Je fais bin build out. Et il va choper toutes les dépendances sur Internet. Est-ce que j'ai Internet? Ouais. Voilà, et là, il installe les dépendances qu'il faut. Et il va travailler tout seul à récupérer tous les bouts d'application. Alors, quand le système a été mis en place dans ZOP, ça a été un grand soulagement parce qu'avant, quand on faisait des sprints pour ZOP, pour installer telle version de ZOP avec telle dépendance, tel paquet, ça pouvait prendre jusqu'à une demi-journée, quoi, pour être sûr d'avoir une machine qui est prête à tourner, quoi. Alors qu'avec ça, ben, c'est en une ligne avec un fichier de configuration. Donc, ça, c'est un gain énorme pour construire des applications. C'est utilisé par ZOP, par Plone, par Grok et par tous les projets au-dessus de Plone ou ZOP. Par exemple, PloneGov, pour pouvoir faire la démo de leur application, ils donnent l'adresse d'un build-out et ils disent aux gens, bon, ben, tu lances le build-out et tu as ton appli qui tourne. Il existe parce que Python gère mal les paquets, mais il y a un PEP qui vient d'être écrit et qui a été accepté, c'est le 370, et qui va certainement résoudre pas mal de problématiques liées au conflit des paquets. Il permet d'avoir des site package locaux aux utilisateurs, en fait. Donc, je vous invite à le lire. Et aussi, parce, ZC Buildout existe parce que cette tool, c'est au niveau paquet. Donc, les avantages, c'est que c'est un standard simple pour installer un projet. Vous faites wget du fichier de configuration. Vous lancez un bootstrap, en fait, c'est un petit script Python qui permet d'être sûr que vous avez Buildout et setup tools installés. Et après, vous lancez le script Buildout généré. Ça permet de gérer aussi le déploiement, c'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je vais pouvoir archiver et distribuer un build-out préconstruit. Je fais bin build-out. Dès que c'est fini, je prends le dossier et je peux le livrer comme application. Et ça fait une di distribution universelle. Donc le fait que l'installation soit localisée résout beaucoup de problématiques de conflits qu'on pouvait avoir. Les inconvénients, c'est le build-out centrisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intégration au Python du système, il n'y a pas de point deb, même si ça pourrait être une base pour un point deb. Je sais que à ZOPCorp, ils créent des RPM à partir des build-out. Mais par contre, un administrateur Debian, il va tirer la tête parce que c'est vraiment en dehors du système, quoi. Et l'autre problème, c'est que c'est PyPy-centric. C'est-à-dire que tous les eggs doivent être déployés sur PyPy pour que ça fonctionne bien. À moins de créer des recettes maison pour les applications publiques où vous allez avoir un répertoire, un cache local d'eggs, etc., etc. Mais ce n'est pas dans le principe des outils qui ont été développés. Donc, pour résoudre cette problématique de déploiement centralisé, j'ai encore du temps. Comment construire et déployer des applications privées? Eh ben, la solution, c'est de créer votre propre PyPy et de vous en servir pour bosser avec. Voilà. Hop. Alors l'idée c'est quoi? C'est que le développeur qui développe pour Acme, il va avoir un private.acme.com avec ses paquets privés. Il va avoir des paquets sur plone.org par exemple, qui sont publics, qui seront aussi sur pypypython.org parce que de la redondance ça fait pas de mal. Parce qu'il faut savoir que quand PyPy tombe, et ben vous pouvez être coincé. Sauf si vous avez du cash local, mais c'est déjà arrivé à des gens que je connais de plus pouvoir bosser parce qu'ils n'avaient pas fait de cash local des ex qu'ils utilisaient, donc du coup, ben, ça n'aurait plus rien marché. Et d'avoir par exemple un products.acme.com public pour les eggs publics, quoi. Ah merde. Voilà, alors j'ai bossé dans ce domaine-là pour essayer d'avoir ce schéma décentralisé. Il y avait quatre, trois tâches en fait. C'était de rendre distutils multiserveur. C'est-à-dire que distutils, en fait, quand vous envoyez un paquet à PyPI, il va récupérer votre login et votre mot de passe dans un petit fichier de configuration qui s'appelle PyPyRC. Et le problème de ce fichier de configuration, c'est qu'il est monoserveur. Donc il faudrait pouvoir définir plusieurs serveurs dedans. J'ai créé une implémentation du serveur PyPy pour que les gens puissent en fait créer des nouveaux serveurs à la Cheese Shop. Et j'ai commencé à déployer cette implémentation dans la communauté Plone pour essayer de promouvoir cette approche. Voilà, alors le boulot qui a été fait dans Python, il est dans le trunk maintenant. Et ça veut dire que pour la prochaine version 2.6, en fait, cette modification sera disponible. Et en attendant la 2.6, elle est disponible dans un paquet qui s'appelle collectif.dist, en fait. L'implémentation du serveur PyPy, elle est faite. Elle s'appelle Plone Software Center et elle est basée sur Plone. En fait, vous pouvez installer cette extension-là et vous avez un Cheese Shop dans Plone, en fait, en gros. Et Plone.org, en fait, se base dessus. La version qui va être mise en ligne en juin-juillet, là, aura cette fonctionnalité. Donc, les développeurs Plone pourront utiliser Plone.org comme ils utilisent PyPy et bosser sur ce mode comme ça, décentralisé. Et maintenant, j'essaie de promouvoir cette approche. Voilà, donc. Voilà, alors nous, à Ingénieweb, concrètement, aujourd'hui, on se sert de PyPy. On a un Plone Software Center public où on met nos paquets qu'on n'a pas envie de mettre sur PyPy, ou alors où on a envie de redondance, et on a des Plone Software Center privés pour chaque projet en fait. Et l'idée, c'est que le développeur, quand il bosse sur un projet, dans son build-out, il va tirer les eggs sur ces trois sources-là pour constituer son application. Parce qu'on veut qu'il utilise les mêmes mécanismes avec distutils et setup tools pour pusher et récupérer des paquets, quoi. Et on ne veut pas qu'il y ait des recettes spécifiques au niveau de sécurité, quoi. Il y a plein de choses dont j'aurais voulu parler, mais je ne vais pas avoir le temps. De la création des recettes pour build-out. Si vous allez sur PyPy et sur la page de ZC Build-out, il y a des explications. C'est très très simple, hein. Une classe en Python et vous pouvez créer une recette. Une recette, ça permet de créer une étape de création d'un build-out. Et une recette, ça peut être par exemple configurer Apache pour Zoop ou alors créer un script de backup, ce genre de choses. Les trucs périphériques autour de l'installation d'une instance Zoop. J'aurais voulu parler de Paster qui permet de créer automatiquement tous les squelettes que vous avez vus, des fichiers de build-out standard, des setup.py standard, il vous pose la question quel est le nom du paquet et de manière standard il vous le crée. J'aurais voulu parler enfin de Python Win32 qui est un installeur où on double-clique, si vous cherchez sur le net vous le trouverez, et ça permet de mettre Windows au même niveau que Linux pour tout ce qui est build-out. Il installe un compilateur, MingGW, il le branche dans distutils et il met en place tout ce qu'il faut dans le pass pour que vous puissiez bosser dans la console MS-DOS comme sous Linux. Voilà, merci pour votre attention. Merci à Olivier pour ce magnifique template pour S5. Et je vous conseille d'utiliser son paquet Virtual Ring qu'il a mis en ligne sur PyPy justement. C'est un petit paquet qui vous permet de gérer tous vos mots de passe hyper facilement maintenant que vous devez les réécrire vu que toutes vos clés Debian sont mortes. Voilà. Et si vous avez des questions.
Il est extrêmement bavard, donc ça va être très rapide pour les questions.
Moi, il y a un truc que je comprends pas au niveau de PyPy, c'est comment on s'authentifie. Enfin, tu envoies tes paquets dessus, et comment on est sûr que quelqu'un, déjà, ne va pas écraser tes paquets.
Alors, chaque paquet, il a un auteur et un seul auteur. Quand tu crées le paquet Toto, si personne n'avait créé de paquet Toto avant, tu en deviens l'auteur. Et l'auteur, c'est le nom. Tu t'enregistres sur PyPy, tu crées un utilisateur, tu peux le faire via DistUtils. Et en fait, tu te retrouves avec un point PyPyRC avec username et password pour PyPy. Et la modif que j'ai faite, en fait, va permettre de faire la même chose, mais pour plein de serveurs différents, en fait. Donc, tu auras pour chaque serveur username, password. Ouais, tu peux les supprimer. Il y a une interface dans PyPy qui permet de gérer les paquets depuis le web, en fait. D'ailleurs, je vais supprimer celui-là.
On m'a dit de poser ma question pendant que tu écris. Est-ce que tu peux en quelques mots expliquer le positionnement de ZC Buildout par rapport à d'autres efforts courants comme Paver et Vellum?
Alors en fait, Buildout, il est orienté ZOOP. Et au départ, ce n'est pas un projet qui a été créé pour devenir l'outil pour faire des applications, pour construire des applications. Et il y a eu les mêmes besoins dans d'autres communautés, donc il y a des outils qui ont été créés en parallèle dans toutes les communautés. Et il y a des gens qui bossent avec VirtualEnv et pour qui ça suffit, ils ont créé des petits scripts au-dessus pour permettre de faire la même chose que ZC Buildout. Par contre, par rapport à l'évolution de Python, tous ces paquets-là ont soulevé des problématiques qui seront certainement résolues d'ici Python 3000 avec ce que je disais, quoi, des modifications au niveau de DistUtils. Mais je pense que ZC Buildout est le plus complet, quoi. Même pour quelqu'un qui ne fait pas de ZOOP, tu peux l'utiliser pour déployer n'importe quoi. Tu peux ne bosser qu'avec du Python et déployer ce que tu veux. Il y a une recette pour Django, quoi. Tu peux utiliser Buildout, tu peux installer un Django avec Buildout, par exemple.